socio-émotionnel, qui implique les personnes. Je ne peux pas apprendre seulement avec les machines. Ma suggestion, c'est plutôt que les enseignants, les intervenants, les psychologues, les thérapeutes, les intervenants qui travaillent auprès des enfants, qui présentent différents types de problèmes, puissent développer des compétences justement pour intervenir avec ce type de technologie. Ça, on voit l'impact. Mais la technologie seule, si on laisse l'enfant avec l'écran, je ne crois pas que ça puisse l'aider. C'est mon point de vue.
Est-ce que ça peut lui nuire?
Et quelques chercheurs pensent que oui, je crois que oui, mais la question reste encore sans réponse parce que le type de tout qu'on a besoin de faire pour répondre à cette question ne va pas recevoir l'appui d'un comité d'éthique. C'est ça. Donc, les résultats sont des résultats où on fait la corrélation entre deux facteurs, mais à mon avis, oui, ça peut être un problème, sauf que...
On a pas assez de recours.
Oui, c'est ça. On n'a pas assez de données pour affirmer, oui.
Il y a Nicole qui a une autre question, Suzanne et puis Suzanne Fouillou. Donc, alors Nicole, elle laisse son tour à Suzanne.
Peut-on imaginer un système scolaire susceptible, sans pas de faire disparaître, mais au moins d'atténuer l'effet Mathieu?
D'atténuer
d'atténuer l'effet Mathieu. Donc, autrement dit, cette discrimination entre les bons élèves et les élèves en difficulté.
Oui, j'imagine. Quelques personnes pensent que c'est une utopie. Pour moi, donc, n'oubliez pas que je travaille en adaptation scolaire. J'ai travaillé en adaptation scolaire toute ma vie. Depuis, ça fait 35 ans que je travaille en inclusion éducative. Pour moi, l'école doit être une pour tous les enfants. Mais on doit différencier et il faut commencer par différencier ce qu'on appelle la réussite scolaire. Si on propose que la réussite soit la même pour tous les enfants, on est perdu. Mais on le voit à l'université, on voit des personnes qui terminent un baccalauréat et qui s'en vont dans différents types de chemins. Donc, le fait que toutes les personnes aient le même diplôme ne veut pas dire que les compétences, les intérêts, le développement professionnel soit le même. J'irai avec cette même idée avec les enfants. Je me pose la question, pour cet enfant en particulier, quelle est la notion de réussite? Et je travaille pour cet enfant, pas pour l'école. Le problème, c'est que les enseignants, les équipes de direction des écoles, travaillent pour les écoles, pas pour les enfants. Donc, on essaie toujours de normaliser, c'est-à-dire, on voit les enfants anormaux et on essaie de diminuer l'écart, mais on n'arrive jamais à le faire. Je pense plutôt à une école différente, la même école pour tous les enfants, mais avec des interventions différenciées et une notion différenciée de réussite éducative. C'est la seule manière de construire vraiment une école démocratique, disons. Mais c'est mon idée, je sais que on travaille. Je dirais qu'au Québec, j'ai connu beaucoup d'expériences éducatives, inclusive dans plusieurs pays, en Europe, en Amérique latine. Et je vois qu'on est chanceux au Québec. On est vraiment à l'avant-garde de tout ce qu'on peut faire en inclusion éducative, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire, bien sûr.
Oui, Suzanne. Oui, alors, monsieur, je vous êtes colombien, vous faites votre recherche en Colombie. Colombie est un pays où la paix sociale est un peu pas toujours au rendez-vous. Est-ce que vous tenez compte de cette réalité-là dans votre recherche? Parce que, dans le fond, quand il y a une guerre ou quand il y a des personnes qui réclament un pouvoir et enfin, les nombreuses guerres qui existent actuellement sur notre planète, il y a une dimension émotive très forte qui entre en compte dans l'apprentissage. Est-ce que vous en tenez compte? Parce que vous n'avez pas dit où votre recherche se fait. Est-ce qu'elle se fait dans la capitale? Est-ce qu'elle se fait dans des régions éloignées, campagnardes, rurales, qui ont vécu vraiment un choc politique, guerrier important? Et est-ce que vous avez pu constater que les enfants, qui étaient peut-être issus des familles dont les pères ou les mères étaient des guerriers, ont une relation différente avec les apprentissages, puis leurs apprentissages se manifestent autrement. Si je vous pose cette question-là, c'est que j'ai enseigné dans une école il y a quelques années quand j'habitais à Montréal, et les enfants étaient issus d'une guerre civile. Et ceux qui avaient été le plus atteints par la guerre civile, c'est ceux qui apprenaient le moins facilement. Parce qu'ils étaient tellement émotifs, tellement marqués, la moindre règle qui tombait sur le sol, pour eux, c'était une bombe. Alors, leur capacité d'attention, tous les sens avaient été mis à l'épreuve. Et donc, avant qu'ils puissent s'en sortir, ça a mis énormément de temps. Mais moi, j'aimerais savoir si vous tenez compte de cette réalité-là dans le pays où vous êtes, la Colombie. Et quand vous comparez avec le Québec, est-ce que vous prenez des enfants qui sont issus de l'immigration guerrière, si on peut l'appeler comme ça, des camps? Ou bien vous prenez des classes dites régulières et sans tenir compte de cette réalité. Merci.
Et oui, merci. C'est une question très, très importante. Bien sûr, le contexte colombien est très particulier. Toutes les personnes le connaissent bien. On voit beaucoup d'enfants qui viennent des familles, des régions exposées à la violence. Oui, on voit l'impact en général de ce type d'environnement inadéquat sur l'apprentissage des enfants. Mon impression, c'est que ce type de vécu, d'expérience très stressante, par exemple, dépend beaucoup de vécu des parents. C'est-à-dire que les parents sont toujours les moyens qui permettent à ce type d'expérience d'affecter la vie des enfants. Donc, on voit quelques parents, quelques familles plus résilientes, par exemple en Colombie, et d'autres familles qui ont plus de problèmes pour gérer ce type de situation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et les effets de ce type d'environnement sont très préoccupants. Et pourtant, quand je vois l'effet Mathieu, parce que oui, je m'intéresse à l'effet Mathieu que vous connaissez aujourd'hui, et je compare différents types de cultures de pays, Je vois que les résultats sont semblables. On voit des parents et d'enfants matures dans toutes les cultures. Et on voit par exemple au Québec que ce sont plus les enfants des familles défavorisées. Mais défavorisées ne veut pas dire seulement défavorisées d'un point de vue économique. On voit quelques familles qui ont un revenu acceptable, mais ces parents ne partagent pas le temps de manière efficace avec les enfants. Et c'est ça qu'on fait grâce à cette intervention. On aide les familles à briser les faits matures. Donc c'est semblable dans toutes les cultures. On voit bien sûr plus d'enfants défavorisés en Colombie. Si je compare au Québec, nous avons 20% de décrochage scolaire ou secondaire. On dit complexe, on se préoccupe, oui, bien sûr. Mais c'est au secondaire. En Colombie, ce que je vois, c'est que 40% des enfants qui commencent l'école primaire ne terminent pas. Ne terminent pas l'école primaire. C'est-à-dire que plus de la moitié des enfants qui commencent l'école primaire ne termine pas non plus l'école secondaire. On voit beaucoup d'enfants qui abandonnent l'école très tôt, mais on voit un pourcentage important d'enfants qui n'arrivent pas à l'école. Quand je vois ce type de réalité, et je connais bien sûr très bien la situation de la Colombie, je vois où est, je me pose la question, où est le problème? Bien sûr qu'il y a un problème de narcotrafic, il y a un problème de violence. C'est omniprésent dans la Colombie depuis des siècles, je dirais. Ça fait partie de la vie colombienne, la violence, le trafic de drogue. C'est le problème réel. Je n'ai pas vu une guerre civile en Colombie, par exemple. Une guerre civile où une partie de la population prend les armes pour combattre. Non, on n'a pas vu ça. C'est un problème de trafic de drogue. Et quand ces groupes de trafiquants de drogue ont beaucoup d'argent, oui. Comme le Mexique, c'est la même situation, ils peuvent payer. Et le plus préoccupant, c'est qu'ils vont chercher tous ces enfants matures, ces enfants qui abandonnent l'école. Je me rappelle d'avoir lu quelques adolescents sicarios, vous connaissez les mots, de tueurs à gages d'adolescents de 12, 13 ans qui commençaient à tuer par argent. Et je me rappelle bien que quand un adolescent a tué une personne très importante du pays, tout le monde a commencé à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Les journalistes sont allés chercher l'enseignant de cet enfant. Je me rappelle bien de l'entrevue parce que cet enfant avait 13 ans et l'enseignant, c'était son enseignant du primaire. Elle racontait, oui, je me rappelle de cet enfant, il avait 8 ans et il était en troisième. J'ai essayé par tous les moyens de lui faire apprendre à lire, à écrire, mais l'enfant ne voulait pas. Il s'intéressait plutôt aux problèmes, à la violence. Il aimait beaucoup frapper d'autres enfants. Donc, il n'y avait pas d'intérêt pour servir d'apprentissage. Et l'enseignant disait, je me pose la question, pourquoi cet enfant a pris ce chemin? Parce que je lui ai donné ce monde de choses positives à l'école, mais un jour, l'enfant a abandonné l'école, il avait 8 ans et maintenant je le vois dans les nouvelles. Donc, ce sont des enfants matis et ce type d'enfants sont identifiés par les trafiquants de drogue qui leur donnent l'argent, en art, le pouvoir. Et avec tout ça, cet enfant, ces enfants commencent à sentir qu'ils peuvent probablement avoir un petit peu de contrôle sur la vie. Je crois que le problème est très complexe et je vois qu'il y a quelques différences, bien sûr, énormes, quand je compare le Québec et la Colombie, mais l'essentiel de l'effet Mathieu est le même. Et on essaie d'identifier cet enfant, ces enfants très tôt pour briser justement l'effet.
Alors, merci beaucoup. On va arrêter le questionnement ici. Je vous demanderai d'applaudir à Jean. Alors, comme à l'habitude, un repas nous attend et je prendrai le temps de vous mentionner la prochaine conférence qui va être avec le docteur Arcan le 16 novembre prochain. Nous allons vous faire une invitation comme à l'habitude. Et sans doute que vous avez remarqué qu'il y a une façon différente de payer. Suite à des demandes de quelques membres, nous avons installé, grâce à notre trésorier, M. Denis Gravel, et aussi notre webmaster, Antoine, la possibilité de payer par Interact. Donc, n'hésitez pas à utiliser le formulaire et la procédure parce que ça fonctionne très bien. Alors, cette fois-ci, il y a 2 personnes seulement qui ont profité de cette possibilité-là. On espère que la prochaine fois, il y en aura plus. Alors, bon appétit et merci de votre présence et d'avoir choisi d'être avec nous.